À l'écoute de la radio Futur Média, mesdames, messieurs, bonjour, il est midi, c'est l'heure du grand journal. Antoine. Au sommaire de ce grand journal, le Sénégal et ses différentes crises, pour y faire face, un regroupement national de la société civile verra le jour cet après-midi. Parmi les membres de cette structure, le Forum civil. Le masque de Karim Ouad tombe après la sortie assassine de Robert Bourgi. L'appel du fils du chef de l'État pour une intervention de l'armée française fait appel à plusieurs interprétations. C'est l'objet du commentaire de Makouma Mbodje. Dans l'affaire Malik Ba, les auditions de certaines personnes se poursuivent. Les gendarmes cités dans les événements de Sangalkam seront entendus par la justice. Effet secondaire des casses de certaines agences de la Sénélec, les clients de la société d'électricité en souffrent en ce moment pour payer leurs factures. Peu d'agences sont fonctionnelles alors que la demande est très forte. Dans l'actualité internationale, Burkina Faso, la commission électorale nationale indépendante n'existe plus. Les députés ont mis fin au mandat des membres de la CENI en crise. Aujourd'hui, nous parlons de la déclaration de Robert Bourgi qui confirme que Karim Ouad l'a appelé pour une intervention de l'armée française lors des émeutes de l'électricité. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez appeler aux alentours de 12h30. Dans ce grand journal, il y aura naturellement la page des sports. Vous aurez également la météo et parler français. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le regroupement national de la société civile installé cet après-midi, une structure qui regroupe donc la société civile, des organisations patronales, syndicales et paysannes. Le but est bien précis pour ce regroupement qui compte faire face aux différentes crises que traverse le Sénégal. Un de ses membres, le coordonnateur du Forum civil, Mouhamad Doumbouj, au téléphone de Daouda Diouf.
Notre pays traverse de gros problèmes. On a fait une alternance en 2000. Qui n'a pas pratiquement servi le peuple. Vous avez vu le mécontentement généralisé manifesté par le peuple le 23 juin dernier. Et à différentes occasions, les syndicats, les patronats avec des dettes intérieures non payées, le CNCR, les paysans avec une dizaine de campagnes commerciales, agricoles, successives, infructueuses, la société civile sur les droits humains, la malgouvernance, la corruption. Nous pensons qu'aujourd'hui, pour poser sur le besoin de transformation radicale de notre société, à partir de la gouvernance publique, nous avions besoin de mutualiser nos efforts et nos démarches. Donc c'est le sens de ce rendez-vous de cet après-midi dans un premier temps. Et un besoin de solidarité avec nous et un lieu d'impulsion d'une grande mobilisation du peuple pour que la République reste la République et la démocratie et pour que ces deux instances servent le développement du pays. Donc on aura des démembrements dans toutes les régions. On va regrouper nos forces à la base et au sommet. Et on n'exclut pas, en le faisant, tout en gardant notre autonomie, chaque fois que le besoin sera, de construire les unités d'action nécessaires pour défendre ce point.
À suivre donc cet après-midi l'installation de ce groupement qui regroupe plusieurs organisations de la société civile. Que faut-il retenir ou que faut-il comprendre de la sortie de Robert Bourgi qui vient clarifier davantage les choses sur le coup de fil de Karim Ouad que Karim Ouad lui a passé pour une intervention de l'armée française lors des émeutes de l'électricité le 27 juin dernier? On peut certainement beaucoup y retenir, car au-delà des démentis que l'entourage de Karim Ouad a servi dans la presse, on a découvert la vérité sortie de la bouche de Robert Bourgi, mais également ce que certains hommes politiques appellent le mépris du fils du chef de l'État à l'endroit des forces de sécurité sénégalaises. Le commentaire de Makouma Mbodje.
Lundi 27 juin 2011, des populations désespérées par les coupures d'électricité ont barré la circulation sur de nombreux axes et ont allumé des pneus. Des voyous s'en mêlent, cassent des édifices et jouent à cache-cache avec les forces de l'ordre. La situation était tendue cette nuit-là, certes, mais rien qui pût ressembler à une situation insurrectionnelle. Les Sénégalais ordinaires, tout au moins, ne semblent guère l'avoir perçu comme cela. Rien qui pût justifier la requête de Karim Ouad à Albert Bourgi. La police, la gendarmerie avaient la situation sous bonne maîtrise, en vrai professionnel qu'ils sont. On n'en était même pas venu à solliciter l'armée nationale qui aurait pu remettre les choses en ordre si cela avait été nécessaire. Car notre armée est respectable, de même que nos policiers et nos gendarmes. Cela est la conviction des Sénégalais dans leur majorité. Cependant, peut-on reprocher à un Français d'avoir recours à sa mère patrie qu'il porte dans son cœur et dans son subconscient? Non. Sauf s'il s'agit aussi d'une personnalité sénégalaise qui a entre ses mains d'importants secteurs de notre vie nationale. L'atout de la double nationalité est de pencher d'un côté ou de l'autre selon ses intérêts du moment. Quel respect Karim Wade donne-t-il à notre armée? A-t-il appelé Bourgi avec l'aval de son père? Si c'est le cas, ils sont deux Français à la tête de l'État du Sénégal. Et puis, par-delà le dédain et le mépris vis-à-vis de nos forces de sécurité, c'est la capacité de nos autorités à s'amuser avec la vérité en usant de démentis tous azimuts. Combien de fois nous a-t-on caché la vérité, ce qui nous permet d'accorder du crédit à Saïf el-Islam ou à croire en la présence de mercenaires au Sénégal? Oui, car les démentis ne valent plus rien dans cette République. La seule façon de retrouver un bout de crédibilité pour Karim Wade aux yeux des Sénégalais est de poursuivre Albert Bourgi pour diffamation. Vive la France!
Makouma Mbouché appelle au dialogue lancé par Abdoulaye Wade. Idrissa Seck réagit et dit ne pouvoir souscrire qu'un dialogue politique qui peut aboutir à un changement pacifique à travers l'organisation d'élections libres et transparentes en février 2012. Selon l'ancien Premier ministre, il faut absolument que Wade quitte le pouvoir en évitant au pays tout conflit pouvant compromettre la paix et la stabilité. Et quelles qu'en soient les modalités, ce dialogue devrait garantir l'expression de la volonté du peuple sénégalais et le retrait de la candidature anticonstitutionnelle d'Abdoulaye Wade.
Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles.
RFM, la radio de toute l'actualité.
Les usagers de la Sénélec ont toutes les peines du monde pour payer leurs factures d'électricité. Cela est une des conséquences des casses de la journée du 27 juin dernier lors des émeutes de l'électricité et devant les quelques agences de la Sénélec qui sont fonctionnelles. C'est l'affluence intenable pour les usagers. Le reportage d'Aminata Goudjabi.
Rue Vincent, agence principale de la Sénélec. L'affluence est inhabituelle. 5 longues queues sont formées. Les clients viennent de partout à Dakar et sa banlieue. Exaspérés, on attend son tour sous le soleil. Des agents de la gendarmerie déployés essaient tant bien que mal de maintenir l'ordre. Ali Kébé et Kylian.
Quand je venais ici, je faisais 5 à 10 minutes. Je suis venu acheter du crédit. C'est du Wayofal pour acheter le crédit depuis 2 heures de temps.
Cette situation est le résultat du saccage des nombreux bâtiments de la Sénélec. Peu d'agences sont opérationnelles. Omar Sall a effectué un long trajet. Moi, j'ai payé mes factures à l'agence de Yarar. Mais tu vois, je suis là depuis ce matin. Et je devais aller au bureau depuis 8 heures. Mais je n'ai pas le choix. Il faut que je paye mes factures. Sinon, on va me couper l'électricité. Dans un mouvement de colère, gérer les uns et les autres devient impossible. Selon Mme Fall, lasse de faire la queue, elle invite les jeunes à avoir plus de retenue.
Maintenant, on supporte les conséquences. Enfants comme parents, voilà. Et vous êtes jeunes, vous savez ce que c'est. Hein? On a beau vous dire ne faites pas, vous le faites quand même. Et après, on pleure.
Sidérés par la gestion de la Sénélec, certains clients reconnaissent que la compagnie a des difficultés. Mais elle devrait trouver des mesures palliatives pour les mettre dans de bonnes conditions quand ils viennent payer leurs factures.
Aminata Goudjabi, il y a des risques d'électrocution en cette période d'hivernage. Risque réel avec ces poteaux électriques qui peuvent créer le danger avec les eaux de pluie. C'est le cas dans plusieurs quartiers de la capitale. Reportage Mantouré.
On dirait une toile d'araignée. Angor, les fils électriques agressent le bleu du ciel. Tantôt parallèles, tantôt obliques ou alambiqués, des carrés, rectangles ou losanges, toutes les figures géométriques qui passent. À Grand Dakar, Liberté 2 et 3, c'est le même désordre. En certains endroits de la ville aussi, les câbles de la Sénélec sont suspendus comme des épées de Damoclès.
Nous, parce que je suis à quelques encablures de la Sénélec, il y a un poste de courant. Mais à chaque fois que je fais, ça pose énormément de problèmes. Cependant, ce même poteau.
Quand il pleut, première option, vite, se mettre à l'abri de l'eau et du courant.
Mais à chaque fois, ça fait l'objet d'une explosion terrible, je dis. Pour que la Sénélec puisse intervenir, elle met plus de 2 heures à 3 heures de temps pour pouvoir raccorder. Et imaginez un peu dans quel désarroi nous sommes.
Deuxième solution, garder les enfants à la maison.
Si l'orage se prépare, si le temps est menaçant, je ferai tout pour les retenir à la maison. Vu l'urbanisme sauvage à Dakar, les chaussées clouées, les trottoirs occupés, et les poteaux, rien n'est sûr dans ce pays.
La troisième, bien les éduquer.
L'éducation, c'est la base de tout. Et l'éducation, c'est fait dans la maison. Avec les petits-enfants, on leur parle doucement, on leur explique. Parce que je crois qu'avec la pluie, les poteaux électriques, c'est à ne pas toucher. Et puis, on ne doit pas marcher pieds nus pendant la...
Des solutions, entre autres, faire appel à la nouvelle technologie.
Parce que la Sénélec, apparemment, n'a plus les moyens justement de faire face à tous ces problèmes. Et ça m'étonnerait. Avant de les enfuir, il faut d'abord nous donner du jus, du courant.
Non ? Alors, interpeller l'État dans ce cas ?
L'État est totalement absent de ce qui se passe, apparemment. On sent plus l'État.
Conséquence dramatique d'un réseau obsolète de la Sénélec, un mort par électrocution.
Prudence alors. Affaire Malick Ba, hier, le doyen des juges a entendu la veuve de Malick Ba, oui, et deux des quatre jeunes victimes de torture de la part des gendarmes en fonction à Sangalkam. La phase d'instruction se poursuit et les gendarmes cités dans cette affaire, dont les noms ont été transmis au doyen des juges, seront prochainement entendus pour coups, blessures volontaires et torture. La santé à Durbel perturbée par la grève de la convergence UTSAS et pour un service minimum, l'administration de l'hôpital régional a pris un certain nombre de mesures telles que la réquisition de personnel, le renfort avec un personnel extérieur, entre autres pour atténuer les effets de ce mouvement qui commence à durer et ressenti par les populations d'Urbel, Mohamed Diop.
L'hôpital régional de Durbel présente la particularité d'être une structure où la quasi-totalité des travailleurs milite au SUTSAS. Avec ce mouvement de grève des travailleurs, tous les services sont paralysés. Mais la direction veille au respect du service minimum. Également, d'autres mesures ont été prises comme les réquisitions en cas d'urgence et l'appel fait à un personnel extérieur temporaire, notamment celui de la maison d'arrêt de correction de Durbel. Le temps des mouvements de grève, assurance donnée par le directeur de l'établissement hospitalier, Pate Gueye. Des mesures et peu d'effets pour Mamadou qui a amené sa fille ce matin à l'hôpital. C'est vraiment difficile de se faire soigner. Il n'a pu faire bénéficier de soins à sa fille blessée. Résigné, il rentre à la maison, attendant un jour meilleur. Mohamed Tchouchop Durbal.
La tuberculose fait peur à Sangé village situé dans la communauté rurale de Noto. L'infirmière chef de poste qui révèle qu'il y a d'ailleurs un cas de décès a interpellé les autorités du ministère de la Santé. Sangé vit également dans la promiscuité et la pauvreté. La correspondance de Charente Diop.
Sangé, di ab deuk bo xamne mi ngi ci communauté rurale bu Noto Diobass. Duggu ci deuk ba lu jafé la.
Charente Diop, l'élément français, vous pourrez l'entendre tout à l'heure et nous parlons justement de la tuberculose qui fait peur à Sangé village situé dans la communauté rurale de Thiès. Charente Diop.
Sangé, un village situé dans la communauté rurale de Noto Diobass. La route qui mène vers cette localité est latéritique, poussiéreuse. Les populations vivent dans la promiscuité avec l'apparition de la maladie qui, pour l'instant, a fait un mort en plus des cas détectés. Sœur Marie-Thérèse Diouf, infirmière chef de poste de Sangé.
Depuis que je suis là, j'ai eu quand même 3 cas. Il y a un décès. Un cas avec décès, il y a actuellement, il y a un cas qui a duré aussi 6 mois à peine, et puis il y a un cas qu'on vient de découvrir.
L'information, l'éducation et la communication, c'est la formule adoptée par les organisations non gouvernementales et les relais communautaires pour mieux sensibiliser les populations sur les dangers de cette maladie.
Sur l'ignorance, comme vous l'avez vu, vous l'avez entendu aujourd'hui, il y a les causeries, mais peut-être les gens n'arrivent pas non plus à faire attention à la situation, c'est-à-dire la façon de contamination. C'est un village qui est aussi, c'est pas lotissé, les maisons sont très serrées, donc je peux dire que c'est une façon de contamination qui peut se faire très facilement.
L'infirmière chef de poste de Sangé invite le ministère de la Santé et les organismes à doter la structure sanitaire de la localité de moyens pour éradiquer la maladie de la tuberculose. RFM Thiès, Charente Diop.
Vous avez sans doute rectifié, Sangé se situe dans la communauté rurale de Noto, région de Thiès. Les vols de bétail ont créé une vive tension entre certains villageois de la région de Seyou, frontalier à la Guinée-Bissau. Parfois, ce sont des troupeaux qui traversent la frontière du fait des voleurs qui se retrouvent en territoire bissau-guinéen. Les autorités sénégalaises et bissau-guinéennes discutent de la question. Correspondance Bakary Konté.
RFM.
Bakary Konté, ce sera lors de nos prochaines éditions. Il est 12h14.
RFM.
L'actualité
internationale.
L'actualité internationale avec Diana Bassé Douba. Bonjour.
Bonjour Mamou. Bonjour Antoine.
Oui, Burkina Faso, les députés dissous donc la CENI qui est en crise.
Oui Antoine, les membres de la commission électorale en crise depuis la démission début juin 2011 des représentants de l'opposition. Alors les députés burkinabés ont tout bonnement mis fin au mandat des membres de la CENI. Leur mandat devait s'achever normalement en septembre prochain. Sornana Tambaya.
Sur cette décision, l'opposition et le pouvoir ont été unanimes. C'est ainsi que les députés burkinabés ont décidé de mettre fin au mandat des membres de la commission électorale nationale indépendante CENI. Cette commission connaît des perturbations depuis le mois de juin, surtout avec l'opposition qui voulait la démission de son président, Moussa Michel Tapsoba. Face à un refus catégorique à sa requête, l'opposition avait retiré en début juin ses 5 membres qui siégeaient au sein de l'institution. La CENI est composée de 15 membres, dont 5 représentants de la majorité, 5 de l'opposition et 5 de la société civile. Élus en 2006, leur mandat devait s'achever en septembre. Cette dissolution de la CENI est vue par le gouvernement comme une façon de mieux préparer les élections législatives et municipales prévues en mai 2012. Et pour assurer l'opposition, le ministre des collectivités locales a annoncé la mise en place d'une nouvelle équipe et de ses démembrements dans les prochains jours.
Otage français du Niger, mort au Mali, ouverture d'une information judiciaire.
C'est une annonce du parquet de Paris. Ce sont des juges d'instruction antiterroriste qui sont chargés de l'enquête. Les deux otages français enlevés au Niger ont été tués en janvier dernier après l'assaut donné par les forces françaises. Nous parlons de la situation en Libye. Les rebelles sont passés à l'offensive et veulent progresser vers Tripoli, soutenus par des bombardements de l'OTAN sur les positions des troupes loyales au dirigeant Muammar Kadhafi. Les rebelles ont réussi à repousser les soldats loyalistes de plusieurs kilomètres. Et pendant les combats, Antoine, plusieurs mercenaires ont été faits prisonniers et certains d'entre eux ont dit être venus du Ghana ou du Mali.
Affaire Dominique Strauss-Kahn, pas de non-lieu immédiat pour l'ex-directeur général du FMI.
Ah oui, le procureur de New York maintient les poursuites contre DSK et n'entend pas se dessaisir de l'affaire. Le procureur s'est entretenu avec la défense et a évoqué et a évacué la possibilité d'un non-lieu immédiat. Charlotte Lalanne.
Toujours pas d'accord entre les avocats de DSK et le procureur de New York, Cyrus Vance, à l'issue de leur entretien ce mercredi. Malgré les doutes qui planent désormais sur les témoignages de la victime présumée, il n'est pas question de prononcer un non-lieu, comme le demande la défense. Cyrus Vance serait prête à lâcher les plus lourds chefs d'inculpation qui touchent DSK, à savoir tentative de viol et crime sexuel. Mais toutes les charges ne seraient pas levées, car la justice américaine semble toujours convaincu qu'il y a bien eu agression dans cette affaire. Elle pourrait donc proposer à DSK de plaider coupable sur des charges moins lourdes comme celle d'attouchement non consenti. Côté accusation, Kenneth Thompson, l'avocat de Nafissatou Diallo, a demandé que le procureur soit carrément dessaisi de l'affaire. Il l'accuse d'avoir favorisé l'étalage médiatique visant les mensonges présumés de la plaignante. Selon M. Thompson, ces fuites visaient à discréditer la réputation de la victime, voire à ébranler les charges qui pèsent contre M. Strauss-Kahn. Mais le procureur n'est manifestement pas prêt à jeter l'éponge. Le bureau de Vance a déclaré hier que ces accusations étaient sans fondement. Les avocats de DSK, quant à eux, semblent confiants après le rendez-vous de mercredi. Une réunion très constructive, selon eux.
Charlotte Lalanne, et c'est tout, Antoine, pour l'actualité internationale.
Merci, Diana Bassé Douba. Cette information que m'apporte Makouma Bouch. Un jeune de 15 ans a été tué ce matin sur l'autoroute. Une dalle qui est tombée au-dessus de sa tête au moment où il cherchait de la ferraille dans une maison abandonnée sur le tracé de l'autoroute à péage. Nous y reviendrons avec Salif Sow.
Parole aux auditeurs.
L'actualité. Comment pensez-vous ? Franchement, vous devez.
Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité.
Bonjour.
Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM.
Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM.
Point de vue sur la déclaration de Robert Bourgi qui confirme que Karim Wade l'a appelé pour une intervention de l'armée française lors des émeutes de l'électricité le 27 juin dernier. Appelez-nous aux numéros habituels.
RFM Sport.
Bonjour, cher Tigane Gaye.
Bonjour, Antoine Diouf.
Nous démarrons cette page des sports avec le Sénégal. Sénégal-Guinée-Oui, version olympique, c'est dimanche à Dakar. Ce match de football est qualificatif aux Jeux africains.
Voilà, qui est bien dit, cette rencontre donc de dimanche, que vous pouvez suivre d'ailleurs sur les ondes de la 94 FM. Retenez que les Lions Olympiques sont en train de se préparer activement en vue de cette rencontre de dimanche prochain, prévue donc au stade Léopold Sédar Senghor. Nos Lions locaux donc, qui avaient perdu lors de la manche aller 1-0, compte en tout cas refaire le retard, rattraper plutôt le retard. Nous écoutons de ce fait le capitaine des Lions. Il s'appelle Stéphane Badji, joint par Malal Chignoriaï.
Avec le jeu qu'on a produit en Guinée, malgré les conditions qu'on a vécues là-bas, mais pour moi, le match qu'on a fait là-bas en Guinée, bon, on peut le refaire ce dimanche et on gagne cette match, quoi, pour moi.
Par rapport à ce match de Guinée, qu'est-ce qui vous a manqué?
C'est l'efficacité qui nous a manqué, quoi, parce que franchement, on a fait un bon match en Guinée. Bon match, on avait eu beaucoup d'occasions et puis on n'a pas marqué les occasions. C'est ça qui nous a fait, après la fin du match, nous décourager, quoi.
Dimanche prochain, c'est le retour à Léopold Senghor. Est-ce que vous pensez battre la Guinée et vous qualifier pour les Jeux africains?
Bon, bien sûr que moi-même, je pense à ça, quoi, parce que hier, après la séance, le travail qu'on a fait avec le coach, bon, m'a beaucoup rassuré, quoi, pour moi. M'a beaucoup rassuré parce qu'on a travaillé tactiquement, bon, défensivement et surtout offensivement, quoi. Le jeu est basé surtout sur l'offensif, quoi, pour essayer de chercher les Guinéens très haut pour essayer de les pousser à la faute.
À l'instant, donc, le capitaine de l'équipe nationale olympique de football du Sénégal, Stéphane Badji, qui revenait sur les préparatifs du match contre la Guinée, prévu donc dimanche prochain. Et ce match compte pour les éliminatoires des Jeux africains prévus à Maputo, c'est au Mozambique. Football toujours, 20e journée, retard de la Ligue 1. Nyarita, les Casa Sport, c'est cet après-midi au stade d'Embodio. Ces deux points séparent au classement les deux équipes. Le Casa Sport de Ziguinchor est 5e, juste derrière sur Nyarita. Le trio de tête du championnat d'élite sénégalais donc est composé de l'Union Sportive de Waka, des étudiants du Dakar University Club et des Médinois du Diaraf de Dakar. À la mi-temps donc de cette rencontre entre Nyarita et Casa Sport, le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Ligue va être effectué. Sont concernés par ce tirage au sort le Duc, le Diaraf, Kies FC, Niambour de Louga, la Linguère de Saint-Luc, Torekunda de Mbour, Aïs Pikine et le vainqueur de la rencontre Nyarita contre Renaissance de Dakar. Football toujours, nous parlons de ce verdict qui est finalement tombé après plusieurs semaines d'attente. Le résultat acquis par le Casa Sport sur le terrain, 3-0 confirmé. Pour rappel, Yakar de Rufusque avait fait une évocation sur un joueur du Casa Sport. Les Rufusquois avaient été déboutés en première instance avant de l'être à nouveau en deuxième instance.
Afro-basket masculin à Madagascar, ça piétine dans la préparation des Lions du Sénégal.
La France n'a pas refusé de livrer des visas aux basketteurs sénégalais, comme l'a révélé une partie de la presse ce matin. Les autorités ont tardé à s'y prendre, selon le chargé de communication de la Fédération sénégalaise de basketball. Je vous propose d'écouter Moustapha Goudiaby.
Moi, je pense que le problème n'est pas à ce niveau. Aujourd'hui, nous sommes dans le process. Donc, nous avons un problème de rendez-vous. Donc, les autorités, toute la fédération de basket, même le président depuis Paris, le vice-président, et même le ministère des Sports, ils travaillent. Donc, aujourd'hui, nous avons étendu nos tentatives, même jusqu'à la présidence. Aujourd'hui, tout le monde y travaille. Le seul problème aujourd'hui que nous rencontrons, c'est un problème de rendez-vous. Mais la France ne nous a pas refusé de visa, encore une fois. Donc, il est fait état dans la presse d'aujourd'hui qu'on nous a refusé les visas. Non, il n'en est pas. Nous avons un problème de rendez-vous. Nous ne désespérons même pas de quitter Dakar pour Toulon d'ici la fin de la semaine. Donc, on y travaille en ce moment.
Cette précision de Moustapha Goudiaby, le chargé de communication de la Fédération sénégalaise de basketball, met un terme à cette page des sports. C'était tout, Antoine Diouf.
Merci, cher Tigane Diagne.
RFM, reportage.
Reportage.